guerre, Stockholm accueille les Jeux Olympiques en 1912. Dans un joli stade construit pour l'occasion, il consacre l'athlétisme comme compétition reine, avec, après le marathon, la création d'une nouvelle épreuve mythique. Si vous allez un jour à Stockholm, sachez que le stade expressément construit pour les Jeux de 1912 est toujours là. Avec 15 000 places, il paraît petit par rapport aux infrastructures d'aujourd'hui, mais en cas de concert, il peut encore accueillir 30 000 personnes. Ce fut le cas, par exemple, pour Michael Jackson dans les années 90. Il faut donc s'imaginer l'ambiance qui régnait en 1912 dans ce stade aux deux tours et à l'enceinte en briques rouges, et se rappeler que de toute l'histoire des Jeux, c'est ici qu'on a enregistré le plus grand nombre de records du monde établis en une compétition, 83. Stockholm tranche par rapport aux éditions précédentes qui avaient un côté rocambolesque. Voici des jeux organisés sur 15 jours dans un stade avec des couloirs tracés au sol et un chronométrage électronique. Pierre de Coubertin ne cache pas son bonheur. Ce furent 5 semaines durant la liesse continue de la nature, le soleil étincelant à travers la brise de mer et les nuits radieuses. Commentaire lyrique, commentaire pompeux, un peu des deux sans doute. Pour la première fois, à Stockholm, les 5 continents sont représentés grâce à la participation de l'Égypte et du Japon. La présence féminine reste faible, 48 sur 2400 concurrents. Mais grande première pour elles, elles vont participer aux épreuves de natation et de plongeon. Natation, plongeon, nouvelle épreuve, et tennis. La participation féminine reste tout de même confidentielle. À Stockholm, voit le jour une nouvelle épreuve, le décathlon, qui puise ses origines dans l'Antiquité. Dans la mythologie, c'est Jason qui le crée pour permettre au grand héros, Pélée, de l'emporter. Celui-ci arrive deuxième dans toutes les compétitions et en les combinant, c'est lui le plus fort. Présent aux Jeux Olympiques antiques, le décathlon a une aura particulière. Mais pour son homologue féminin, l'heptathlon cher à Nafissa Toutiam, il faudra attendre longtemps pour le voir apparaître au programme des Jeux. On aura d'abord les 5 épreuves du pentathlon féminin en 1964 qui passeront à 7 épreuves, l'heptathlon, en 1984 seulement. En attendant, à Stockholm, il y a à la fois pour les hommes le pentathlon et le décathlon qui vont consacrer un athlète peu connu de ce côté-ci de l'Atlantique mais qui est une star aux États-Unis. En l'an 2000, on a demandé par sondage aux Américains quel était le plus grand sportif de l'histoire. Eh bien, ce n'est pas Mohamed Ali, ce n'est pas Jesse Owens. Non, à la première place, on trouve Jim Thorpe. Et son histoire extraordinaire et tragique n'est sans doute pas pour rien dans sa popularité. Thorpe a des origines amérindiennes et ce métis est doté d'incroyables qualités sportives. Dans les années 60, Eisenhower l'évoque dans un discours. Ici et là, il y a des gens suprêmement doués. Prenez Jim Thorpe, il ne s'est jamais entraîné et réussissait mieux que n'importe quel joueur de football que j'ai jamais vu. Parce que Thorpe est au départ un joueur de foot américain qui se dit en 1912, tiens, j'irai bien aux Jeux Olympiques. Et comme je sais tout faire, je m'inscris au pentathlon et au décathlon. Des épreuves qu'il remporte de manière écrasante. Il devient la star des Jeux et à son retour, il est fêté à New York comme un héros. Mais la gloire sera de courte durée. L'année suivante, un ancien coéquipier de baseball le dénonce. Il a été rétribué pour jouer au baseball, ce qui contrevient au règlement des JO réservé aux sportifs amateurs. Thorpe plaide la bonne foi, il plaide l'indulgence. Vous savez, j'étais un jeune étudiant indien, pas au courant des règles olympiques, je faisais comme beaucoup d'autres, mais pas comme eux, sous un nom d'emprunt. Rien n'y fait. Le CIO déchoit Jim Thorpe de son titre. Comme sa popularité est intacte, il va alors se lancer dans une carrière pro, au football, au basket, au baseball. Mais la blessure morale est bien là. Il finit par sombrer dans la dépression et l'alcoolisme. Après la Seconde Guerre mondiale, ses proches entament les tentatives de réhabilitation. Elles finiront par aboutir, mais trop tard pour Torp, qui meurt en 1953. Et ce n'est qu'en 1982 que le comité olympique lui restitue les titres gagnés à Stockholm en 1912. Une vie compliquée pour un homme issu de milieux modestes qui connaît gloire et déchéance, comme on en voit pléthore dans la littérature et le cinéma américain. Jim Thorpe, un destin tragique, mais une célébrité encore aujourd'hui. Et les Belges, au fond, à Stockholm, comment se sont-ils illustrés ? Dans le stade qui accueille les compétitions d'athlétisme, ils n'ont pas vraiment brillé, sauf le fait d'avoir ouvert le défilé officiel. On se console comme on peut. Mais heureusement, nous avions nos points forts. En l'occurrence, l'escrime, avec deux titres olympiques à l'épée, l'un en équipe, l'autre en individuel, avec le bruxellois Paul Anspach. Nous brillons aussi en aviron, au waterpolo et en équitation, comme on l'avait fait 4 ans plus tôt à Londres. 8 médailles à Londres, dont une en or au tir, 6 à Stockholm, mais 2 en or, en escrime donc. Les Belges s'en sortent honorablement, mais notre heure de gloire viendra au jeu suivant, qui ne viendront que 8 ans plus tard. Berlin est censé accueillir en 1916 des Jeux qui n'auront évidemment pas lieu. L'olympisme, censé renforcer la paix, comme la coopération scientifique ou culturelle, n'empêchera pas l'immense boucherie de la Grande Guerre.